Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok. On est ensemble partout. Life Radio 107.7, comme tu l'entends. Live Matin, l'interview.
Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur la radio, votre radio Life Radio 107.7 et tous les jours du lundi au vendredi entre 7h et 9h. Il y a bien sûr l'essentiel de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui jeudi et nous sommes le 23 juillet 2026 et nous sommes donc à deux jours des vacances donc du Life Matin Info et également de toute la radio hein, parce qu'après vendredi, tout le monde s'en va en vacances, mais il y a un autre programme. Alors donc pour marquer la fin donc de cette saison, Mesdames, Messieurs, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'innovations. Déjà la première pour le Live Matin Info, de recevoir donc nos amis qui nous ont accompagnés durant une saison entière. Il s'agit bien sûr de Sangaré et Yakuba, journaliste, rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Patriote. Bonjour Sangaré.
Bonjour, c'est Jonathan, non?
Jonathan Debo. Jonathan Debo, Emmanuel Djedji.
Bonjour Jonathan, Emmanuel.
Et Philippe Asso.
Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. En présentiel.
Oui.
J'ai pris plaisir vraiment à collaborer avec vous durant toute cette saison, même si vous avez souvent des questions pièges. En tout cas, ça fait un plaisir. Merci pour la confiance et puis pour l'aventure.
On est ensemble, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et puis juste derrière, il y a un monsieur qui nous a particulièrement surpris. Quand tu lances donc l'interview avec beaucoup d'entrain le matin, il faut réveiller les gens. Tu dis « Bonjour, monsieur Paul Kwaku ». Il dit « Bonjour, monsieur Paul Kwaku, bonjour, les trucs de ce matin. »
Bonjour, chef.
Ben voilà, voilà, ça n'a pas changé. Comment il va, Paul Kwaku?
Je vais très bien, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir là en présentiel. Désormais, je sais mettre des visages sur les noms.
Oui.
Et puis... Merci pour cette aventure.
Justement, avec la voix grave et veloutée de Jonathan Debo. Ça dit quand tu le vois en présidentiel, c'est différent de l'antenne. Hein.
C'est ça.
Il est concentré pour présenter son journal. Tu dis, mais attends, lui, c'est un blanc qui est venu ici. Quoi. Mesdames, Messieurs, bonjour, ailleurs dans le monde.
C'est ça.
D'accord, alors c'est vrai, c'est le matin, nous sommes à deux pas des vacances, on l'a dit, mais il y a quand même l'actualité qui nous réunit aussi ce matin autour donc du micro de Life Radio. Nous parlerons notamment de la sortie de la Côte d'Ivoire du GAFI, dont on parlera aussi des enjeux donc du plan national de développement, sans oublier donc les réponses du gouvernement face donc au déguerpissement et au relogement des populations, et également au niveau de la pluie, et la pluie également qui a fait donc des morts en Côte d'Ivoire en 2026. Et puis nous terminerons avec l'indépendance qui se prépare au niveau donc de Yopougon, sans oublier donc la recrudescence des accidents de la route. Autant de sujets déjà abordés avec vous donc tout au long de cette saison, mais qui restent toujours d'actualité parce que l'actualité bien sûr ne s'arrête pas. Alors première question que je voudrais vous poser aujourd'hui, vous êtes donc associé à Life Radio. Comment vont donc vos différents journaux, l'apport donc de ce partenariat entre Life Radio et vos différents journaux, Paul Kwaku?
Je pense que déjà il faut saluer ce partenariat qui est né il y a quelques mois. Je dirais que pour le quotidien Le Mandat, c'est une opportunité, c'est une tribune de faire connaître notre journal, notre quotidien, et puis ses activités, augmenter également le nombre de lecteurs.
Oui.
De nos jours.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est véritablement un appui, un apport considérable pour notre rédaction et qui, à travers cette tribune qui nous est offerte tous les jeudis matins,
oui.
De contribuer un tant soit peu à informer les Ivoiriens en décryptant l'actualité, mais aussi en mettant en avant ce que nous avons mis à notre une. Voilà, pour attirer nos lecteurs. Et donc, je pense que c'est un partenariat, comme vous venez de le dire.
Mm-hmm.
La saison prend fin, je pense que ce partenariat va se poursuivre pour la saison prochaine.
Ça, c'est les partenaires qui vont décider. Alors, comment on pourrait donc définir votre ligne éditoriale aujourd'hui, Le Mandat?
Nous sommes un journal d'information générale. C'est vrai que les journaux, en Côte d'Ivoire particulièrement, ont une coloration politique. Nous sommes un journal un peu proche du RHDP. À l'origine, nous étions proches du PDCI, mais pour des raisons que je n'exposerai pas ici, nous avons essayé de changer de ligne éditoriale. mais nous demeurons un journal d'information générale et qui relaie tout ce qui concerne la population ivoirienne. Mais ces dernières années, nous nous sommes détachés un peu de la politique parce que nous estimons qu'au-delà de la politique, les Ivoiriens vivent des réalités au quotidien. C'est pour cela que vous verrez sur nos journaux, les unes sont plutôt des unes de société et d'économie.
D'accord. On l'a vu récemment avec le forum sur l'emploi jeune. Vous avez donc fait un large écho. Sangaré Yakuba, j'ai eu vraiment du mal à comprendre déjà dès le départ. Rédacteur en chef adjoint. Je connais le rédacteur chef, mais déjà, Jonathan m'a dit non, mais il faut dire adjoint parce que c'est pas le rédacteur en chef parce qu'il pourrait donc avoir des soucis au bureau là-bas. Mais c'est vrai que le patronat va créer de problèmes au travail, j'espère.
Non, pas du tout. Effectivement, la précision, Jonathan a raison. La précision et détail, c'est rédacteur en chef. Adjoint. Parce que à l'ANP, vous savez, quand les journaux sont créés, les responsables sont je vais dire, présentés à l'ANP, à l'Autorité nationale de la presse. Donc, l'ANP est très, très méticuleux sur ces questions. Mm-hmm. Un rédacteur en chef, c'est un rédacteur en chef, son adjoint. Donc, l'adjoint ne peut pas prétendre être le rédacteur en chef alors qu'il est déclaré à l'ANP comme étant comme l'adjoint. Donc, pour respecter cette réglementation, il faut ça. Et puis, bon, en interne, ça ne pose pas de problème. Mais mon rédacteur en chef, il est très cool. Hein.
Oui.
Voilà. Et puis, bon, j'ai la chance.
On peut le saluer, pas trop
loin. Oui, monsieur Coré Emmanuel. Oui. Je vais passer le bonjour de toute l'équipe de l'IFRA. Life Radio. Et bon, voilà, donc il n'y a pas de souci à ce niveau.
Alors, même question pour Paul Kouakou. La ligne éditoriale du Patriote, on le connaît, très proche du RHDP, du parti au pouvoir. Il y a même un leader qui m'a dit, mais Sangaré, il est trop RHDP. Vraiment, il dit des belles choses, mais son affaire de RHDP est trop, trop fort.
Ah bon? Non. Non, on est d'abord un journal d'information générale, voilà. Qui traite de toute l'actualité, qui est vrai proche du RHDP, qui a une inclinaison forte pour l'opinion. Parce que nous, on a bâti notre notoriété sur l'opinion. Parce qu'on est, on est revenu sur le marché en 1999 dans un contexte politique très marqué. Mm-hmm. Et donc, on est venu de plein pied dans un combat politique. Donc, il fallait pour nous construire une opinion. Voilà, donc, ce qui fait qu'on privilégie beaucoup les analyses et les commentaires sur les différents sujets, notamment les sujets politiques en général. Ce qui fait qu'on a cette inclinaison forte, mais sinon on traite de tout à l'actualité. Là. Quand il y a un événement économique qui domine l'actualité, comme récemment les assises du groupe consultatif de PN pour le financement du PNT 2026-2030, et on a fait un large écho et ça occupe vraiment la une. Mais je reconnais qu'on a une inclinaison très forte pour la politique et on est proche du RHDP. Mais cela ne nous empêche pas d'être professionnels. Je le dis toujours, partout où je passe. Ce n'est pas parce qu'un journal a une coloration politique qui n'est pas professionnel. Être professionnel, c'est respecter les règles de base du métier. C'est-à-dire être fidèle à la véracité des faits, respecter l'équilibre de l'information. Maintenant, si vous n'êtes pas d'assis, si l'information n'est pas en phase avec votre ligne éditoriale, vous pouvez faire ce qu'on appelle un encadré, une opinion, un commentaire. Là, vous prenez de la distance par rapport aux faits et vous donnez votre opinion. Mm-hmm. Mais ce qu'on ne fait pas, on ne traverse pas l'information. Donc, on est très méticuleux sur ces questions-là. Alors, on essaie toujours d'apporter des réponses aux préoccupations.
Là, c'est le professeur qui parle. Là, il a peut-être même des cours de journalisme. Alors, premier sujet ce matin, c'est le plan national de développement, le PND 2026-2030. On le sait, le groupe consultatif donc, a réuni durant deux jours donc experts, financiers et également, on va dire, apporteurs d'affaires pour permettre donc à la Côte d'Ivoire de réaliser d'ici 2030 donc, un bond qualitatif en termes de développement. Si on devait résumer ça pour les citoyens lambda, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le PND 2026-2030, Paul Kouakou.
Le PND 2026-2030, si on veut le résumer, c'est la matrice, matrice d'action du gouvernement de 2020.
La feuille de route.
La feuille de route du gouvernement. Tout ce qui concerne le développement. De 2026, 2027, 2028 jusqu'à 2030. Mmh. Et le gouvernement s'est fixé des objectifs, à savoir, ils sont nombreux les objectifs du gouvernement.
Oui.
En un mot, c'est de permettre à l'issue de la mise en œuvre de cette feuille de route, permettre aux Ivoiriens de mieux vivre. Ça, c'est les objectifs, hein, de façon générale. Mais si on va dans les détails, Par exemple, le taux de pauvreté aujourd'hui est situé à 37%. L'objectif du gouvernement, c'est de ramener ce taux de pauvreté en dessous de la barre des 20%. Je crois que ce n'est pas rien. Et il y a aussi, par exemple, l'espérance de vie, qui est aujourd'hui de 62 ans. L'objectif du gouvernement à l'issue de PND, c'est de permettre à ce qu'on ait l'espérance de vie en Côte d'Ivoire de 65 ans. L'objectif, c'est également de créer environ 3,5 millions d'emplois à l'horizon 2030. Donc, il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de grandes lignes. Mais comme Emmanuel Diodi aime bien le faire ici dans le Life Matin Info, sont les chiffres qui parlent. Et en termes de chiffres, déjà, il y avait un chiffre annoncé, 114 000 milliards. Mais seulement juste après deux jours, on a eu donc les experts qui ont réuni déjà quatre fois ce que la Côte d'Ivoire devait donc être en mesure d'attendre pour la réalisation donc du plan national de développement. Une question de Jonathan Nebou.
Oui, Emmanuel. C'est justement ma question.
Oui.
Aujourd'hui, l'objectif affiché, c'est vraiment 114 000 milliards de francs CFA. Quelles sont réellement les priorités qui justifient un tel niveau d'ambition financière?
D'abord, il faut savoir qu'il y a deux leviers de financement du plan national de développement. Il y a le secteur public, le gouvernement avec ses partenaires. Et puis, il y a le secteur privé. Je crois que pour cette année, le gouvernement compte sur le secteur privé pour mobiliser les fonds à hauteur de 70 et 75% pour le PND, le budget global du PNG. Vous savez, la rencontre qui a eu lieu, le gouvernement avait mobilisé ses partenaires au développement. Donc, ils attendaient un objectif d'environ 11 000 milliards et ils en ont eu 4 fois plus, 47 000 milliards. Donc, et ça, c'est une assurance de garantie, de sécurité, de la solidité du pays. Vous savez, les investisseurs ne vont pas là où ils ne sont pas sûrs qu'il y a la sérénité et que les opportunités d'affaires peuvent leur permettre justement de fructifier leur business. Donc ça, c'est vraiment le premier levier. Le deuxième levier, c'est le secteur privé. Dans le secteur privé, il y a eu plus de 2000 hommes d'affaires, les patrons des grands groupes internationaux, des multinationales qui sont venus et qui ont pris des engagements forts. Donc, je pense que ce qui les 70% vont être atteints par le secteur privé. Et c'est dans tous les domaines. On a eu les grandes multinationales dans vraiment différents domaines, agricoles, miniers, etc. Et puis, la Côte d'Ivoire aussi a la chance aujourd'hui d'avoir des fondements économiques solides, d'avoir une croissance soutenue depuis 2011, avant la Covid, autour de 7%. Avec la Covid, on est descendu en 2020 autour de 2%. Après, on est remonté autour de 6,5%. Mais aujourd'hui, les projections pour cette année, c'est autour de 6,5% de croissance. Et ça montre vraiment la résilience de l'économie ivoirienne, des fondements solides de la Côte d'Ivoire. Et ça, vraiment, c'est des gages d'investissement. Et puis, il y a la sécurité aussi et il y a la stabilité. Ça aussi, on ne le dit pas assez, mais c'est important. Et ça fait partie des priorités du PND. Comment continuer à préserver la sécurité et la paix dans cette zone ouest-africaine qui malheureusement fait face au péril djihadiste?
Justement dans le domaine, c'est quoi les réformes? Juste en deux mots, avant de passer donc au prochain sujet.
Les réformes, c'est-à-dire, je
parle. Les réformes. Qu'a fait le gouvernement aujourd'hui pour susciter autant de confiance auprès donc des bailleurs de fonds, des partenaires?
Le gouvernement il y a eu beaucoup de réformes économiques. D'abord, le gouvernement améliorer le climat des affaires en permettant par exemple aux entreprises, aux investisseurs de venir investir facilement. Est-ce que vous savez que si vous créez une entreprise aujourd'hui qui permet de donner du travail aux Ivoiriens, je parle du nombre exact du nombre d'emplois qu'il faut créer, vous êtes exonéré d'impôts pendant un ou deux ans. Il y a des facilités comme ça. Même les zones industrielles, avant c'était très complexe de pouvoir s'installer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités qui sont accordées aux investisseurs pour qu'ils viennent s'installer. Même le code minier aussi. Il y a eu beaucoup, le code minier a été révisé pour permettre aux multinationales de venir facilement s'implanter en Côte d'Ivoire et travailler. Donc au niveau des affaires, je pense qu'il y a eu beaucoup de réformes qui encouragent. Ensuite, il y a eu des fonds qui ont été mis aussi en place aussi pour au niveau des PME et des PMI, tout ça pour permettre aux entrepreneurs vraiment qui ont des projets sérieux de bénéficier d'un accompagnement. Donc, il y a beaucoup d'initiatives de ces gens. Et puis, le gouvernement lui-même crée aussi les conditions aussi pour que les gens puissent travailler. Quand on fait les routes, les centres de santé, l'électrification. Et le fait qu'on a aujourd'hui plus de 92% de taux d'électrification peut encourager aussi les investisseurs à investir, sans compter le fait qu'il y a aussi des pôles, des agropôles, des pôles de développement économique qui sont en train de se préparer. Vous savez, dans la zone de la mer, il y a une zone industrielle qui est en train de se préparer vers le PSDJ. Donc, tout ça, c'est vraiment beaucoup d'initiatives qui ont été menées pour encourager les gens à investir, sans compter sur un aspect important. Vraiment, ça reste un gros défi, c'est la lutte contre la corruption.
Justement, en allant parler, la gestion, pendant tout le temps.
Il y a eu d'abord un ministère en charge de la lutte contre la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Ensuite, maintenant, il y a une autorité
de la bonne gouvernance.
Il y a un certain nombre de dispositifs. On va évoquer la scientifique. Il y a Paul économique.
Oui.
Vous connaissez le Paul pénal économique.
Qui fait l'actualité.
Oui. Mais on va en venir grâce à ce qu'ils sont en train de faire. La Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de la liste grise de la GAFI, mais elle va bientôt sortir parce qu'il y a une mission qui arrive en octobre. Cette mission va évaluer tout ce qui a été fait comme action. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à la banque déposer 10 millions comme ça, sans justifier vous les fonds. Aujourd'hui, vraiment, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de faire.
Il y a des réformes qui portent des fruits aujourd'hui.
Vous savez que la corruption, c'est...
Justement,
on va
faire donc la transition avec la prochaine question de Jonathan Debou.
Effectivement, on parle justement d'éventuelles ou encore même de prochaines sorties de la liste du GAFI. Et M. Paul Kouakou, il faut dire que depuis plusieurs mois, les autorités ivoiriennes mettent en avant des réformes engagées pour renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et donc, quels sont ces changements justement qui ont été opérés dans ce domaine?
Oui, je dirais que la Côte d'Ivoire a été placée sur la liste grise parce que le GAFI a estimé que le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des capitaux de la Côte d'Ivoire n'était pas assez corsé, assez cohérent. Et donc, il fallait mettre le pays sur cette liste. Alors, cela a poussé le gouvernement ivoirien à mener beaucoup d'actions, notamment la sensibilisation. On a vu dernièrement le procureur du pôle pénal économique et financier, parce qu'il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui ne savent pas exactement pourquoi on peut être poursuivi. Il est important pour que les uns et les autres sachent que quand vous recevez de l'argent et que vous n'êtes pas capable de justifier la licéité du fonds que vous détenez, si vous acquérez et si vous disposez de ce fonds, c'est-à-dire que si M. X me donne de l'argent et que je garde chez moi, je ne sais pas, je ne cherche pas à savoir d'où viennent ces fonds, je peux être poursuivi. Et donc, quand vous allez par exemple au tribunal du pôle pénal et économique et financier, nous y allons souvent, vous voyez des personnes, M. X et M. Y, M. tout le monde, hein, des personnes qui sont condamnées. Et la surprise est générale. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas. Mais c'est un ami, c'est un frère qui m'a donné l'argent. Je n'ai rien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne savent pas. Et donc, l'information est importante. Et je pense que c'est ce que le pôle pénal économique et financier est en train de faire de plus en plus, en communiquant, en informant les uns et les autres. Et il y a un phénomène aussi qui prend de l'ampleur, c'est le domaine de l'immobilier. Et le procureur a indiqué que dans le domaine immobilier, il y a plus de blanchiment d'argent et de capitaux. Et
c'est le boulevard, hein? C'est le boulevard du blanchiment d'argent.
Et on voit les structures immobilières, je ne vais pas indexer qui que ce soit, mais on voit les structures immobilières qui poussent partout. Donc, il faudra de plus en plus faire très attention aux transactions que nous faisons, à l'argent que nous recevons. Et je pense que le meilleur moyen de lutter contre le blanchiment d'argent et le blanchiment des capitaux, c'est la sensibilisation.
Oui.
C'est la sensibilisation pour que les uns et les autres soient un peu plus regardants sur ce qui passe dans leurs poches.
Merci, c'est noté. Emmanuel Djedji, une question toujours sur le GAFI.
Cette fois-ci pour Sangaré. Oui. Avec les événements autour de la corruption, du blanchiment de capitaux, etc. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire pourra présenter aujourd'hui donc des résultats concrets pour convaincre le GAFI de sortir de cette liste-là?
Déjà, le fait que le GAFI ait décidé de venir faire une mission en octobre, c'est déjà un point positif. La dernière rencontre, c'était en juin, la dernière plénière du GAFI. Vous savez, le GAFI tient des réunions régulières comme ça pour évaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et la corruption dans les différents pays. Donc lors de la dernière réunion, la Côte d'Ivoire a mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment le pôle pénal économique et financier, la CNTIF, en tout cas la haute autorité de la bonne gouvernance, etc. Donc ils ont décidé de venir en octobre pour évaluer quel est l'impact justement de ces réformes-là et tout ce qui est en train d'être mené sur le terrain pour voir est-ce que il y a eu, la Côte d'Ivoire peut sortir de la liste grise maintenant. Moi, je pense qu'il y a des motifs d'espoir. Parce que si le Gafi avait dit en juin, c'est pas la peine qu'on nous fasse une mission, vous, vous êtes toujours sur la liste noire, on pourrait désespérer. Mais le fait qu'ils acceptent de venir déjà, ça dit qu'ils sont conscients qu'il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, ils vont venir évaluer ça sur le terrain. Moi, j'ai foi, parce que le gouvernement se bat comme il peut, hein. Vous savez, tout ce qui se passe au pôle pénal économique, et financier, c'est vraiment des actes forts. C'est vrai qu'il y a des transactions, mais souvent, c'est des gros hommes d'affaires, c'est des grands circuits de corruption qui sont démantelés et il y a des biens qui sont saisis. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de trop communiquer dessus. Hein. Mais si ils permettaient le gouvernement ou bien leur mission leur permettait de communiquer sur les saisies qui sont faites, les réseaux qui sont démantelés, les gens vont s'arracher les cheveux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'actions qui sont menées.
Justement, la question. Voilà. Oui, tu termines.
Et aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits, comme Paul l'a dit, pour identifier la traçabilité des fonds aujourd'hui dans les transactions, tout ça. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire pourrait sortir si la Côte d'Ivoire maintient cette dynamique-là.
Mais en même temps, rapidement, hein, j'aimerais rebondir. En ce moment, au pôle pénal économique, il y a des affaires brûlantes. Est-ce que ces affaires-là n'auront pas une incidence sur la sortie de la Côte d'Ivoire concernant la liste?
Ça peut avoir une incidence si ce n'est pas bien géré. Mais je pense que si une affaire se trouve au niveau du pôle pénal économique et financier, qui est vraiment autonome, hein, Hollande qui agit vraiment en toute liberté, je pense que si c'est bien traité là, ça va avoir une incidence positive, moi je pense. Et je pense que le pôle est conscient de cette mission-là. C'est pour ça que le pôle est très, très, très intransigeant dans sa mission, dans les différents procès. Il a dit, il y a des gens qui sont surpris. Mais si c'est illégal, c'est illégal. Besoin d'assainir vraiment cet environnement. Et surtout dans le domaine de l'immobilier, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et des gens circulent ici avec beaucoup d'argent cash, sans qu'on ne sache l'origine des fonds. Vraiment, dans un pays normal, ça ne doit pas être possible.
On a plusieurs sujets, on a quasiment 10 minutes sur ce sujet-là. Alors, pourquoi vous allez réagir rapidement sur ce sujet-là? Mais j'ai également une autre information. Vous le savez, le secteur du café cacao, récemment, on parle également de détournement là-bas, après donc la crise qu'a connue ce secteur-là. Toujours, pendant qu'on lutte pour sortir de la liste, il y a encore des autorités, des personnalités qui, malheureusement, sont coupables de ce genre de fait-là. Est-ce que le pôle pénal économique ne choisit pas ses victimes?
Non, je ne dirais pas cela parce que c'est quand même un tribunal. Le tribunal ne choisit pas ses victimes. Je voulais dire que la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance de sortir de cette liste parce que nous avons seulement 14 points sur lesquels le pays doit agir. Par exemple, le Sénégal, ils ont 47 points. Mmh. 47. Nous, on a 14. Ça veut dire que nos failles ne sont pas assez béantes. Et c'est des choses que l'on peut réparer aisément. Et donc, je pense que la Côte d'Ivoire pourra sortir de cette liste. Maintenant, quand il s'agit de ce que vous évoquez, ça pose le problème de la corruption en Côte d'Ivoire. Le mal est tellement profond. Et donc, nous sommes qu'au début d'un travail qui sera certainement long. C'est le travail de la lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics. Et ça, je pense qu'on a du chemin à faire.
Merci beaucoup. Alors, on va passer donc au prochain sujet. Jonathan Debout.
Oui, effectivement, il faut dire que Monsieur Sangaré, depuis plusieurs mois, les opérations de déguerpissement menées dans certaines zones urbaines suscitent de nombreux débats entre justement les impératifs d'aménagement du territoire, de sécurité des populations et des préoccupations sociales des personnes concernées. Quels sont les objectifs et priorités poursuivis par le gouvernement à travers ces opérations?
Franchement, sur le premier objectif prioritaire, c'est qu'il n'y ait pas de mort pendant les saisons pluvieuses. Ce n'est pas normal, vraiment, dans une ville aussi moderne comme Abidjan, qu'il y ait des zones qui ne doivent pas être habitées et qui sont habitées. Et à la moindre saison des pluies, il y a des éboulements et puis on déplore des victimes. Je voudrais rappeler qu'au mois de mars, le Premier ministre avait lancé une opération zéro mort en saison pluvieuse. Malheureusement, on a dépassé 59 personnes lors des dernières inondations avec les éboulements des terrains. Donc la priorité du gouvernement, c'est de prendre les dispositions pour qu'il n'y ait plus de morts. Ça dit quoi? il faut revoir l'urbanisation d'Abidjan. C'est vrai que la ville a grandi très vite et il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui expliquent ça. Il y a la démographie galopante et puis il y a la situation qu'on a connue. La crise a fait qu'il y a eu un surpeuplement au niveau du sud d'Abidjan, tout ça. Et il y a des quartiers qui sont développés rapidement à perte de vue sans respecter les règles d'urbanisation. Souvent, les quartiers minimums n'ont pas été lotis. Les gens font des lotissements villageois, ils vendent les terrains, les gens viennent y construire sans viabilisation. Et ce qui est dramatique, on l'a vu à Benjavi, il y a même des opérations immobilières qui ont été construites sur des sites alors que c'était des voies de drainage d'eau. Les gens achètent des villas à des vingtaines, trentaines de millions, mais quand il pleut, ils ne peuvent pas résider. Et ce n'est pas normal. Donc, la priorité du gouvernement, c'est de régler ça. Déguerpir les zones à risque, mais en respectant aussi l'exigence sociale. Parce qu'on est dans une société qui fonctionne beaucoup à l'émotion. Quand les gens sont déguerpis, on voit les gens sous la pluie avec les décombres, les gens pleurent. Mais moi, sur cette question, moi, je suis sans émotion. Moi, je préfère voir une dame, des familles qui ont les débris des maisons, qui sont en vie, qui s'abritent avec leurs affaires dehors sous la pluie, comme ils peuvent, mais qui ont des cadavres, excusez-moi le mot, qu'on sort des décombres d'une maison. On a vu comment ces drames ont suscité l'émoi. Mais malheureusement, c'est politisé et c'est ce que je déplore chez les gens politiques. On voit des gens qui vont sur les terrains, ils font beaucoup de... tu sens, ils veulent apporter de la compassion, mais c'est de la compassion calculée. On ne joue pas avec la détresse. Et moi, je trouve que ça, c'est manichéen. On ne doit pas faire ça. L'exigence est claire. Un gouvernement responsable ne doit pas permettre aux gens d'habiter dans des zones à risque. Je pense sur cette question, le gouvernement a eu tort de laisser certaines zones à risque être habitées pendant ces zones des pluies. Ensuite, après ça, il faut apporter une réponse sociale. Il faut que le gouvernement réponse la question des logements à loyer modéré. Dans beaucoup de grandes métropoles internationales, on sait que tous les citoyens n'ont pas le même niveau de revenus. Ce n'est pas tout le monde qui peut, quand une ville se développe, habiter avec les activités économiques. Là, le logement prend un coup, ça augmente forcément.
En France, on a les HLM.
Les HLM. Oui, donc, il appartient au gouvernement de travailler sur ça. Je pense qu'ils ont compris ça. Ils veulent construire 12 000 logements pour essayer de recaser les gens. Mais ça aussi, il faut compter aussi sur l'honnêteté des gens. On a vu, moi, je me souviens qu'à Washington, a été déguerpi il y a quelques années sous le règne du président Bédier. Des gens qu'on a envoyés à Biabou, des gens ont revendu leurs maisons, ils sont revenus habiter à Washington parce que, bon, ils ont leurs activités à côté.
Et ils sont à Abidjan.
Ils sont à Abidjan. Donc, c'est tout ça qu'il faut régler. Mais je pense qu'il faut que le gouvernement anticipe ça. Pour moi, ça a été... Et ils n'ont pas peut-être anticipé sur ça. Il faut qu'ils anticipent sur ça. Dans cette ville, on doit pouvoir construire le logement à moyen qui permette aux classes démunis, bon, je n'ai pas trop démunis, les gens qui n'ont pas de grands moyens de se loger à moins de coûts. Ça peut être des locations ventes, ça peut être des locations à l'époque où Fou les faisait, voilà, pour les fonctionnaires. Donc, c'est construire des logements à moins de coûts, parce que si les gens ont leurs activités en pleine ville, que vous leur demandez de quitter, c'est pas facile. Souvent, des gens habitent dans ces quartiers-là par la force des choses. Mais il y a des gens, c'est des choix.
Oui.
Voilà. Ils habitent dans des quartiers précaires. Ils sont plus nantis que des gens même qui habitent à Cocody. Parce que c'est un choix pour pouvoir ne pas dépenser plus. C'est tout ça qu'il faut voir.
D'accord. Voilà. Où se trouve aujourd'hui M. Alu Boujaka?
Il est à la Maca.
À la Maca.
Jusqu'à preuve du contraire.
Au 27 225 49 880, le numéro de téléphone de votre radio, Life Radio. Proposez également vos questions à nos invités de ce jour, Paul Kouakou et Sangaré et Yakuba. C'est bien sûr la grande interview qui met fin donc, mesdames et messieurs, à la saison 2026.
Alors, moi, ma question est plus concentrée, on va dire, sur aujourd'hui. Hein, on sait que l'État affirme avoir protégé les populations dans des zones à risque. Mais pourquoi avoir justement attendu que des quartiers entiers soient construits avant d'intervenir? Ou bien, où était aussi le contrôle administratif auparavant?
Ah oui, oui, mais c'est pas le cas.
Oui, sur la question du déguerpissement, je voulais juste relever deux points. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi l'État... Je ne comprends pas en fait le calendrier. Pourquoi on fait le déguerpissement, l'opération de déguerpissement sans avoir prévu au préalable le recasement des populations, des zones où les populations pourraient être recasées? Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on va en faire le déguerpissement, on déguerpit les populations qui sont très généralement à la rue. Et c'est maintenant qu'on cherche les endroits où les recaser. Je pense qu'on aurait pu faire autrement. D'abord, construire les endroits où les recaser, planifier les endroits où les recaser, faire le déguerpissement et puis permettre à ces personnes-là d'aller calmement rentrer dans les
dans biens qui leur sont réservés. Ça, c'est l'idéal.
Et je ne comprends pas pourquoi cela n'est pas fait. Peut-être qu'il y a des raisons que je ne maîtrise pas, je ne sais pas. Mmh. Et par ailleurs, il y a, sur la question même du logement, le gouvernement avait initié le programme des logements sociaux. Je pense que si ce programme était allé jusqu'à son terme, ça aurait pu peut-être soulager un tant soit peu toutes ces populations-là qui sont obligées, contraintes d'aller habiter dans des zones à risque. Et pour le dire franchement, c'est une opération, c'est un projet qui a été un fiasco et ça, c'est peu de le dire ainsi. Parce que le besoin en logement en Côte d'Ivoire, c'est 800 000 logements.
Mmh. 800 000 logements.
En Côte d'Ivoire. Et le gouvernement avait tablé, je crois, dès les années 2020 ou moins même avant, sur 150 000 logements. On n'a pas atteint les 150 000. Et il faut rattraper toujours ce qui doit être rattrapé parce qu'on n'a pas pu construire ces logements à temps. Et au-delà même de la question de l'assainissement, au-delà de la question même du déguerpissement, moi je me pose une autre question. Est-ce que c'est pas la population, je le dis souvent à votre antenne, est-ce que c'est pas la population abidjanaise qui devient assez pour
contenir. C'est un thème de démographie.
La population devient tellement galopante que les infrastructures ne peuvent plus nous accueillir. Nous tous. Ça, c'est un fait, je pense. Dans les autres pays, par exemple au Nigeria, vous avez Abuja, vous avez Lagos.
Oui.
Mais pourquoi ne pas rendre effectif, par exemple, le transfert de la capitale, que ce soit effectif? Peut-être que cela pourrait désengorger, par exemple, la ville d'Abidjan, parce que vous voyez...
Selon vous, qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui empêche cela?
Ce qui empêche, c'est une décision politique, il faut le dire.
D'accord.
Une décision politique. Et je pense qu'il faut aller au bout. Le chef de l'État, dès son accession au pouvoir, il l'avait annoncé clairement. Mmh. Jusque-là, je crois même il y a des années où on allait faire le conseil des ministres à Yamoussoukro. Je pense que c'est une dynamique qui devait se poursuivre pour que certaines institutions soient là-bas et que l'Abidjan soit vraiment désengorgé. Et il y a un autre petit point, c'est-à-dire que c'est un problème.
On va terminer là-dessus parce que, comme je l'ai dit, il y a encore d'autres sujets.
Mais disons l'arbre qui cache la forêt. Parce que vous avez le problème des ordures. Abidjan produit 50 000 tonnes d'ordures par jour. Ouais. Nous sommes trop nombreux. Quand vous faites deux jours sans ramassaille, ça fait 100 000. Et même quand il y a les solutions qui sont trouvées, pour rattraper le volume d'ordures qui n'a pas été dégagé, on a l'impression que l'État ne fait rien. Mais et donc, ça, c'est un problème qui est transversal. Il faut régler le fond du problème, je pense que c'est ça.
D'accord, merci beaucoup. Jonathan Nebo, au prochain sujet.
Alors, M. Sangara, on va parler justement de la recrudescence des accidents de la route. Il faut dire que malgré les campagnes de sensibilisation et les différentes mesures prises par les autorités, le nombre d'accidents demeure préoccupant justement sur les routes ivoiriennes. Le problème se situe davantage au niveau des comportements des usagers, des infrastructures ou du contrôle routier tout simplement.
On se rappelle que le dernier accident qui a eu lieu sur l'axe Touba-Biankouma a fait 39 morts, juste pour un seul accident.
Effectivement.
Ok, je voulais relever deux faits qui vont répondre vraiment à la question. D'abord, le dernier accident qui a eu lieu sur le pont du Bafing, le cas qui venait de Djéné en partance pour Touba. Le cas avait une capacité de 69 places, mais il y avait 91 personnes dedans. Ça, c'est un facteur humain. Il y a des gens qui étaient assis sur le tabouret au milieu, d'autres étaient debout.
Oui.
Deuxième chose, le pneu a explosé. Est-ce que ce n'est pas la surcharge? Troisième chose, il y a eu des problèmes mécaniques qui ont été identifiés. Ça veut dire que le véhicule n'était pas en très bon état, il était en vitesse. Donc ça, c'est le facteur humain. En 2022, le ministère des Transports a donné des statistiques montrant que 67% des accidents qui ont lieu à Abidjan dans le pays, de façon générale, relèvent du facteur humain. Excès de vitesse, non-respect du code de la route, c'est-à-dire les gens font des dépassements là où ils ne doivent pas faire des dépassements. Mm-hmm. Ensuite, l'entretien, et puis soit des chauffeurs dorment au volant, ils ne se reposent pas, ils sont sur l'effet d'excitant ou l'effet de l'alcool. Donc la plupart des accidents relèvent d'abord du facteur humain. Mm-hmm. Ça, pour répondre à votre question. Donc c'est sur ça qu'il faut peser énormément. C'est vrai, il y a les caméras, il y a la vidéo-verbalisation, il y a la commission de retrait des permis, mais les gens, ça continue. Peut-être qu'il faut durcir les sanctions. Peut-être qu'il y a des gens, il faut leur retirer le permis à vie au lieu des points. Dans le système des points, quand vous atteignez un point, vous retirez votre permis, mais après, les gens peuvent vous redonner votre permis si vous repartez à l'auto-école, si vous faites preuve de civisme, tout ça. Mais il y a des gens, peut-être qu'il faut carrément les interdire de conduire. Donc, je pense qu'il faut durcir la législation à ce niveau et la sanction. Ensuite, il faut intensifier le contrôle routier. À ce niveau, il faut demander aux forces de l'ordre aussi de faire correctement le contrôle. Voilà, de ne pas céder à la tentation de la corruption. Le monsieur n'est pas en règle, parce qu'il va vous donner un peu d'argent, vous le laissez partir. Vous savez que il ne conduit pas bien, le véhicule n'est pas en bon état.
Vous savez qu'il y a un risque.
Troisièmement, je pense aussi qu'il faut revoir la question des visites techniques. Qu'est-ce qu'on constate avec les visites techniques aujourd'hui? C'est devenu un réseau de corruption. Voilà. Si vous ne payez pas, vous n'aurez pas la visite technique, même si votre véhicule est en bon état.
Ouais,
et il y a des gens qui trichent avec ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent des pneus, souvent ils louent des phares pour aller passer la visite technique.
Et
une
après...
fois qu'ils ont fini, ils reprennent les pneus défectueux là, et puis continuent de rouler dans la circulation. Donc ça, il faut peser sur ça. Il faut que ça se fasse vraiment avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, beaucoup de conscience professionnelle. C'est vrai, les gens se sont construits leur vie avec ça, comment démanteler ça. Mais il faut qu'on démantèle ça parce qu'aujourd'hui, les accidents causent beaucoup de drames.
Ouais.
Intensifier la sensibilisation, engager les acteurs du transport. Je connais qu'il y a un niveau d'incivisme vraiment qui atteint son paroxysme. Au niveau du transport en commun, et même des particuliers.
Hein, oui.
Particuliers. Donc, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. Il faut durcir les sanctions et puis vraiment veiller au contrôle de la visite technique automobile. Un véhicule défectueux ne doit pas se retrouver dans la circulation.
Il faut lutter également contre la corruption.
Contre la corruption au niveau des visites techniques.
Ouais.
Et je voudrais terminer par une anecdote. Il y a quelques années, il y a des ambassades qui s'étaient plaintes comme ça aux autorités. Vous savez que les ambassades importent des véhicules qui viennent, en réalité, souvent c'est des véhicules, la plupart des véhicules neufs, hors taxes, mais ils ont constaté que quand les véhicules vont à la visite technique, les ambassades ne donnent pas d'argent aux chauffeurs pour aller faire la visite technique, et puis les véhicules reviennent, échec. En temps, il y a des véhicules même qui sont caboussés, qui sont validés. Ils ont saisi les autorités à cette époque-là, je me souviens, il y a un ou deux, trois ans, pour ces plaintes que si c'est comme ça, ils ne feront plus jamais de visite technique.
Ouais.
Donc c'est tout part de là. Il y a vraiment
la corruption. C'est la corruption.
Et c'est l'une des raisons fondamentales, et puis surtout le manque de responsabilité des automobilistes.
D'accord. Emmanuel Diodi ?
Vous avez cité pêle-mêle des solutions, vous avez parlé de sensibilisation, etc. Donc j'aimerais ajouter à la longue liste dénonciation aussi. Mmh. Est-ce que vous pensez que toutes ces campagnes-là sont suffisantes, sont suffisamment efficaces pour freiner le phénomène des accidents, de l'incivisme routier en Côte d'Ivoire ?
Pour moi, quand on regarde la recrudescence, on peut légitimement penser que ce n'est pas efficace.
Oui.
Qu'est-ce qui ne va pas alors? C'est la question qu'il faut se poser. Je me souviens que le ministère, l'année précédente, avait initié chaque semaine la semaine du civisme routier. C'est ça, non, service du civisme. Voilà. C'est-à-dire chaque mois, pendant la première semaine ou début du mois, le ministère faisait des campagnes dans les gares, dans les différentes localités. Mais malgré ça, les gens continuent de rouler n'importe comment, permettez-moi l'expression, sur nos voies. Moi, je pense qu'il faut durcir la législation autour de ça. Interdire des gens carrément de conduire à vie. Et puis, il faut que nos policiers soient stricts dans le contrôle routier. Et puis, surtout au niveau de la visite technique. À la passage, ce véhicule-là qui est tombé dans l'eau, c'est parce que comment un véhicule surchargé comme ça, c'est plus de 22 personnes peut quitter une ville comme au dîner traverser
tous les postes à péage, le contrôle,
mais tout simplement parce que quand ils arrivent, l'apprenti va descendre, va voir le gars qui contrôle là les pièces avec un billet dedans et laisse passer. C'est la conséquence.
L'une des solutions, c'est également la dénonciation citoyenne.
Ça, moi, j'ai vu ça en Allemagne et quand j'ai découvert ça, j'étais choqué. En Allemagne, quand vous travaillez, vous ne respectez pas le feu rouge, celui qui est derrière, il flash carrément votre plaque d'immatriculation, il vous dénonce à la police, vous recevez la contravention. Il faut qu'on en arrive à ça ici aussi.
Ça va arriver.
Il faut récompenser les gens qui dénoncent le
passé. Le dernier sujet, c'est la fête de l'indépendance.
Oui, la fête de l'indépendance. Il faut dire que justement, M. Kwaku, à l'approche du 7 août, date marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les autorités et surtout la commune de Yopougon s'activent pour offrir aux populations une célébration à la hauteur de l'événement. Quels sont les grands axes retenus pour l'organisation de cette édition de la fête nationale?
D'accord, les grands axes, les grandes articulations, moi je, je vais scinder toute la célébration en deux parce qu'il y a l'aspect fectif, l'aspect récréatif qui est le défilé le 7 matin avec toutes les troupes qui vont passer. Mais il y a aussi un point très fort, c'est le point du discours du président de la République le 6 au soir.
Oui, tout à fait.
Donc ça, c'est un aspect politique. Et donc moi, je voudrais surtout m'appesantir sur l'aspect politique. Parce que nous sommes dans une situation où le gouvernement a initié un dialogue politique. Mais déjà, comme on l'a dit dès l'ouverture de ce dialogue, il y a des partis politiques, il y a des membres de la société civile. Tout le monde ne parle pas le même langage par rapport à ce dialogue politique. Et donc, le discours du président de la République, Dieu merci, ces derniers temps, il y a eu des événements, des décisions de dégel, de crispation avec la sortie de certains prisonniers du PPACI.
Oui.
Voilà, il y a la sortie de ces prisonniers-là qu'on nomme prisonniers politiques. Et certains disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais chacun sort ses propres thèmes. Et donc, il y a le discours du président de la République.
Je vous ai dit, Paul Kouakou, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du président de la République en termes de discours le 7 là?
Le 6 au soir. Oui, c'est un grand moment. Bon, moi, je pense que l'actualité politique recommande qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises pour que...
Exemple de mesures
que, par exemple, les uns et les autres demandent un dialogue direct avec le président de la République. Peut-être pas forcément un dialogue direct, mais pourquoi pas revoir le format même du dialogue là qui va se dérouler concernant la mise en place du nouvel organe en charge des élections en Côte d'Ivoire. Peut-être que le président de la République pourra...
Mais comment on peut discuter avec quelqu'un qui décide de ne pas participer à la vie politique? Par exemple, on parle de boycott au PPAC, il faut dire les mots.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on revient sur nos mêmes difficultés. Moi, j'aurais voulu, par exemple, que d'abord la libération de certains prisonniers, comme il est en train de le faire maintenant, comme cela est en train d'être fait maintenant,
oui,
soit bien avant.
D'accord, bien toujours avant. Encore calendrier.
Voilà, tout.
Mais vaut mieux tard que jamais, Paul Kouakou.
Oui, je sais. Non, c'est vraiment bien fait de penser à mettre tout le monde autour de la table. Mais ils vont, l'opposition, c'est vraiment l'opposition. Mais chacun trouvera, on le sait toujours, chacun trouvera
quelque chose à redire.
Et vous verrez, les jours qui vont venir, j'ai eu l'invitation le jour même, j'ai eu l'invitation la veille.
Oui. L'ex-président Laurent Gbagbo a été invité par le RHDP, par le président de la République, pour participer donc aux festivités. Vous pensez qu'il y sera, le président Laurent Gbagbo?
Je sais pas, je pense que c'est pas la première fois qu'il est invité. Il a été déjà invité quand les festivités devaient avoir lieu à Yamoussoukro. Il n'est pas venu.
À Boaké aussi.
À Boaké aussi, il n'est pas venu. En tant que chef d'État, normalement, il a le droit d'être invité. Je ne sais pas s'il viendra. Je ne peux pas préjuger de son intention. Parce que ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, peut-être qu'il n'est pas dans les mêmes dispositions. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles il n'a pas répondu aux précédentes invitations. C'est difficile de le dire. Je sais que le PPAC est dans une posture de se mettre à l'écart de la vie politique. Moi, personnellement, je pense que la politique de la chaise vide ne paye pas. Aujourd'hui, ils se sont mis à l'écart de l'Assemblée nationale. Ils n'ont quasiment pas de députés à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut pour transporter le débat autour de la mise en place d'un nouvel organe électoral à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le PPACI sera absent du débat. Bon, à qui la faute? Bon, c'est une question qu'il faut mener. Je pense que ici, les gens...
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on doit ramener le PPACI au cœur donc de la discussion, du dialogue politique?
Bon, le gouvernement a déjà tranché le cadre du dialogue. Ils ont dit qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas pour que il y ait des discussions autour d'une table avec les partis politiques parce qu'on sait, il ne faut pas se voiler la face, on sait qu'on a en Côte d'Ivoire, quand les gens vont autour d'une table, ils vont chacun avec son agenda dans son sac, chacun va se battre pour voir ce qu'il va gagner. Et souvent, c'est des discussions interminables, tout ça. C'est pour ça que le gouvernement veut amener le débat à l'Assemblée nationale où il y a les élus du peuple. Et c'est là que le PPAC se trouve piégé puisqu'ils ont refusé de participer aux élections législatives. Et sur cette question aussi, le PDCI tient aussi, hein, parce que je me souviens quand Mme Simone Gbagbo a fait une proposition, le PDCI s'est plaint. Il dit non, des partis qui ne sont même pas représentés à l'Assemblée nationale font des propositions. Et puis, l'Assemblée nationale aussi, quoi qu'on dise, c'est les représentants du peuple. Hein.
Justement.
Il y a une forme de légitimité à ce niveau. Bon, maintenant, tout ça, c'est la politique. Hein. La politique. Voilà, ouais. Ça a eu de voir comment il peut trouver le mécanisme. Mais moi, derrière tout ça, moi, j'appelle à la responsabilité. Il faut que, quand les gens partent une table de discussion, c'est vrai, ils ont leurs intérêts. C'est comme un jeu de dames, un jeu d'échecs. Mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'à un moment donné, on doit être très responsable. Alors on doit passer à l'intérêt supérieur du pays.
Et c'est déjà terminé pour ce numéro de Live Matin Info, numéro spécial de vacances. Il nous reste juste une petite minute, juste en 10 secondes chacun, un mot de la fin. Paul Kwaku.
Je voudrais remercier Life Radio pour cette opportunité qu'elle nous offre à échanger avec vous et puis communiquer avec les auditeurs. Je voudrais remercier également la rédaction Le Mandat, avec à sa tête monsieur le directeur général Marcelin Dibi, et toute la rédaction, et saluer les auditeurs. Comme je l'ai dit, j'espère que c'est un partenariat qui va se poursuivre parce que informer les Ivoiriens de tout ce qui se passe dans le pays, parce que le journal Le Mandat met plus en avant les difficultés quotidiennes des populations, et je pense que l'information passe par là aussi.
Merci beaucoup, Sangare Yakuba.
Moi aussi, je vous souhaite d'abord vous dire merci. Voilà, merci à toute l'équipe de Life Matin, à travers elle, la direction, voilà,
oui.
Voilà, pour avoir autorisé cette collaboration. Et ce fut un plaisir pour nous, vraiment. Merci pour cette lucarne que vous avez fait aux Patriotes de commenter nos titres les mardis, permettre aux lecteurs de mieux expliquer. Ça peut être aussi un motif de gagner des lecteurs.
Bien sûr.
Et en tout cas, j'apprécie vraiment le ton tonique de l'émission.
Merci beaucoup.
C'est très dynamique.
Merci.
Et c'est vraiment un plaisir. Et je souhaite bon vent à l'émission. Et puis surtout, reposez-vous bien. Voilà, pour revenir avec beaucoup de peps à la rentrée.
Merci beaucoup. Jonathan Nebou, Emmanuel Guéguin, on a terminé.
Oui, on se retrouve demain pour la finale des finales.
Demain, la grande finale. Soyez là. 27 225 49 880. Demain, sur le coup de 8h. Soyez là, mesdames, messieurs. Allez, ciao, bonne journée.
Life Radio 107.7, écoutez-nous sur liferadio.ci et suivez toute notre actualité, infos, news, players et un max de tubes non-stop. Life Radio 107.7, comme tu l'entends.